J'espère que vous êtes tous bien. Donc nous nous retrouvons pour notre deuxième rencontre du parcours Kephas de cette année. Et cette deuxième rencontre coïncide, c'est bien pour ceux qui nous rejoignent, coïncide avec un nouveau chapitre. Chapitre 9, à la page 117 de l'édition verte, qui lui-même coïncide avec donc l'étude du 8e article du Credo. Mais on avance quand même. Et on est plus sur la fin que sur le début, même s'il reste encore un très gros morceau qui nous conduira au moins jusqu'à la Toussaint, peut-être même un peu après. Ce 8e article a pour objet la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Vous n'aurez pas échappé que le credo est une structure trinitaire. Hein, les articles sont ordonnés selon l'ordre des processions en Dieu. Il y a d'abord le Père, puis le Fils qui s'incarne, qui souffre sa passion, puis le Saint-Esprit. Et l'Église animée de l'Esprit-Saint. Alors, sans plus tarder, nous prenons notre catéchisme à la page donc 117, chapitre 9, le 8e article. Que nous enseigne le 8e article « Je crois au Saint-Esprit ». Le 8e article du Credo nous enseigne qu'il y a un Esprit-Saint, troisième personne de la Sainte Trinité, et qu'il est Dieu, éternel, infini, tout-puissant, Créateur et Seigneur de toutes choses, comme le Père et le Fils. Alors, beaucoup de choses à dire. D'abord, on pourrait s'étonner de l'appellation Esprit-Saint, dans la mesure où les trois personnes en Dieu sont purement spirituelles. Hein. Je rappelle que Dieu n'est pas un corps. Hein. Dieu est bien une substance spirituelle. Alors, son Fils a assumé une nature humaine qui comporte un corps, mais Dieu, en tant que tel... En tant que Dieu, il est esprit. Et donc les trois personnes divines sont bien de nature spirituelle. Le mot Esprit-Saint est là pour distinguer justement le Père du Fils. Et il se prend de la racine spirare. C'est dire la relation de la troisième personne de la Trinité comme distincte de la relation d'engendrement qui correspond à la deuxième personne de la Trinité. Le Père engendre le Fils est engendré par le Père. Eh bien, l'Esprit-Saint, c'est la personne qui est spirée, on dira. Il est spiré par le Père et par le Fils. Voilà. Voilà d'où ce nom. Et le mot saint est probablement là pour nous indiquer déjà l'appropriation de toute sanctification à cette troisième personne qui est envoyée par le Fils une fois retournée au Père. On va le voir après. Donc le mot saint veut dire aussi sanctifiant, et pas simplement impeccable comme les autres personnes de la Trinité. Troisième personne, je le rappelle comme on l'avait dit, je ne vais pas refaire le cours sur la Trinité, hein, on l'avait vu l'année dernière, troisième personne, troisième indique simplement un ordre logique, mais pas un ordre chronologique. Car si les trois personnes sont consubstantielles, et donc également Dieu, il n'y a pas de chronologie, mais il y a une simultanéité, celle de l'éternité. Les trois personnes sont hors du temps. Atempus, ce n'est pas simplement qui a toujours été, qui sera toujours, c'est hors du temps. C'est-à-dire qui ne connaît pas de mouvement. Parce qu'encore une fois, si il n'y a plus aucun mouvement, si nous figeons cette salle, plus personne ne bouge, que les aiguilles des montres s'arrêtent, et ainsi de suite, vous n'aurez pas d'instant A ni d'instant B. Là, il y en a eu, puisqu'il y a eu le mouchoir qui a été pris de la boîte. Mais si le mouchoir n'avait pas été pris de la boîte, il n'y aurait pas eu d'instant A ni d'instant B. Non, mais c'est simplement pour dire que le temps implique un changement, qui est le mouvement. Pour acquérir ou perdre quelque chose qu'on avait ou qu'on n'avait pas. En Dieu, qui est parfait, il ne peut rien perdre, il ne peut rien acquérir qu'il n'avait pas. Donc il n'y a pas de changement. Si donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas de temps. Donc Dieu, il est hors du temps. Et ça, c'est valable pour les trois personnes de la Trinité, qui sont simultanément Dieu, et autant Dieu les unes que les autres, si je puis dire. Et donc le mot troisième ne signifie pas du tout une postériorité chronologique, mais simplement un ordre logique lié au mode de procession dont on va parler, qui est propre à l'Esprit-Saint. Alors je ne vais pas aller plus en détail, puisqu'on l'avait vu quand même assez précisément lorsqu'on avait étudié le mystère de la Sainte Trinité, qui n'est pas l'objet d'un chapitre en tant que tel dans le catéchisme Saint-Pédis. C'est pour ça que j'avais fait une séance un peu plus déconnectée, si je puis dire, du catéchisme, pour pouvoir vous exposer de façon un peu systématique, ce que la raison peut dire de la révélation de ce grand mystère. Car je rappelle, mystère ne veut pas dire absurde, hein, mystère veut dire caché, c'est ce qui est caché. Et si Dieu nous le révèle, c'est qu'il y a bien quelque chose à comprendre. Il aurait perdu son temps. Donc on peut comprendre les mystères. On déplaise aux fidéistes ou aux modernistes qui font de la foi un sentiment. On peut comprendre le mystère. Pas complètement, mais partiellement. Donc, troisième personne de la Trinité pour dire que, selon cet ordre logique lié au mode de procession, eh bien, l'Esprit-Saint, en ce sens-là, est dit après le Père et le Fils. Qu'il est donc Dieu éternel, donc je viens d'expliquer ce que c'est dire éternel, il est hors du temps comme le Père et comme le Fils, qu'il est infini, tout-puissant. Donc ça implique effectivement que toutes les perfections du Père sont celles du Fils et celles de l'Esprit, puisque les trois personnes, souvenez-vous, ne se distinguent pas autrement que par leur relation. On avait vu que toute autre distinction entre les personnes impliquerait une infériorité ou une supériorité de l'une sur l'autre. C'est la raison pour laquelle toutes les perfections qu'on dit d'une personne, on peut le dire aussi des autres personnes. Hein ? Donc, comme on dit que le Dieu, et ça la raison peut tout à fait le démontrer, que si Dieu est Dieu, il est sans limite puisqu'il est l'être même, la seule limite à l'être, c'est non-être. Et comme Dieu est l'être même qui se définit par cela, il n'a pas de limite, donc il est infini. Et si les trois personnes sont Dieu, elles sont toutes les trois infinies. Tout-puissant, ça ne veut pas dire qu'il peut faire tout et n'importe quoi. Hein. Ça dit qu'il peut faire tout ce qui est possible. Alors il y a beaucoup de choses qui pour nous sont impossibles et qui sont possibles pour lui, pour Dieu, pour chacune des trois personnes. Mais possible ne veut pas dire, tout-puissant ne veut pas dire qu'il peut faire l'absurde. Dieu ne peut pas faire qu'un cercle soit carré ou que Dieu 2 fasse 5. Ou de ne plus être Dieu. Dieu ne peut pas créer Dieu, ça n'a pas de sens, c'est une contradiction. Et le problème de la contradiction, c'est de ne pas pouvoir exister parce que ça s'exclut. Soit c'est un cercle, soit un carré. Soit c'est un mort, soit c'est un vivant. Ça peut être les deux en même temps, sur le même rapport. Bon. Et donc Dieu ne peut pas faire en ce sens l'impossible. L'impossible radical, l'impossible métaphysique. Donc, infini tout-puissant, il peut faire tout ce qui est possible. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles qu'il ne fera jamais. Hein. C'est notamment toute la question du meilleur des mondes. Hein. Dieu pourrait toujours créer un monde meilleur que celui qui existe, puisqu'il y aura toujours une infinité de possibles entre le plus parfait des mondes qu'il fait et puis lui-même. Bon, c'est une autre question. Tout-puissant, créateur. Encore une fois, ce qui distingue les trois personnes de la Trinité, c'est uniquement leur relation d'origine. Le Père n'a pas d'origine, le Fils est origine dans le Père, l'Esprit-Saint a son origine dans le Père et dans le Fils. Il n'y a pas d'autre principe de distinction. Ce qui signifie bien que tout ce qu'ils font, ils le font tous ensemble. Et la création est bien donc l'œuvre des trois personnes de la Sainte Trinité. D'accord ? On l'approprie au Père, pour les raisons qu'on avait dit. Je n'y reviens pas, on avait vu la création. Mais en soi, c'est bien l'œuvre des trois personnes. Créer, je le répète pour ceux qui n'étaient pas avec l'année dernière, hein, ça veut bien dire faire quelque chose à partir de rien, hein, ce qui est une expression qu'il ne faut pas prendre au sens propre, parce que par définition, le rien, c'est rien. Donc, on ne va pas prendre de rien, il faut faire quelque chose. Mais c'est pour bien dire que le propre de la création, c'est de pouvoir faire advenir à l'être quelque chose qui n'existait pas du tout. Et à partir de rien, c'est qu'il n'y avait, rien avant. Donc on passe du non-être à l'être, voilà ce que ça veut dire. On passe du néant à l'existence. Voilà. Et ce, par la propre pensée, accompagnée de la volonté, que cette pensée se réalise. Créateur. Et seigneur de toutes choses. Bah, comme il est créateur, il est le maître de toutes choses comme un seigneur. Il est souverain sur sa création. Et à ce titre, on lui doit l'adoration autant que le Père, autant que le Fils. Trois fois ça, hein, le Dieu trois fois ça, on le dit dans la liturgie plein de fois, et vous avez plein de symboles trinitaires dans la liturgie. Du nombre de nappes qu'il y a sur l'autel, en continuant par les trois sanctus, en passant par la structure trinitaire du credo, du gloria, toujours la doxologie qu'il y a à chaque fin d'oraison, hein. Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en Dieu, vit et règne avec le Père en unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Vous avez toujours cette gloire qui est rendue distinctement aux trois personnes de la Trinité, qui méritent la même gloire. C'est très fort dans le rite traditionnel parce que le sacrifice du Fils est offert à la Trinité Sainte tout entière, bien sûr, mais distinctement au Père. Car le Fils, en tant qu'homme, il a bien été envoyé par le Père. Hein ? Il est envoyé par le Père, il offre son sacrifice, alors à toute la Trinité comme homme, mais il retourne à son Père par cette expiation qu'il lui offre. Donc il offre ça à la Trinité Sainte, mais distinctement au Père qui l'a envoyé, précisément comme étant à son principe. Et donc vous avez cette prière d'offertoire, Suscipe Sancte Pater, au début de l'offertoire, qui fait écho avec le Suscipe Sancte Trinitas à la fin de l'offertoire. Et à la fin de la messe, avant la bénédiction finale, vous avez le placet tibi. Sancta Trinitas. Agere Trinitas, ce sacrifice qui vient d'être offert. Vous voyez, il y a cette insistance sur le fait qu'on n'offre pas le sacrifice à un Dieu inconnu, un Dieu de l'univers créateur ou architecte. C'est à la Trinité Sainte et distinctement au Père. Bon, mais la même gloire lui est rendue, la même action de grâce lui est due, la même adoration lui est due. Créateur et Seigneur de toutes choses, comme donc le Père et le Fils. Et le « comme » souligne bien cette égalité foncière qu'il y a entre les trois personnes. Bon, là, ce n'est que des rappels de ce qu'on a dit sur le mystère de la Trinité, donc je ne détaille pas plus, parce qu'autrement, on pourrait en faire une heure, et ce n'est pas l'objet aujourd'hui. De qui procède le Saint-Esprit ? Alors, je rappelle que « procéder » ne veut pas dire « causer ». « Procéder » veut dire « qui tire son origine ». C'est ça que ça veut dire. « Procéder », c'est « avoir pour origine ». Tout est fait par rapport à une cause, bah, trouve son origine dans sa cause. Mais quand je dis cause, eh bien je dis dépendance dans l'être. Le tableau est causé par l'artiste. Le tableau dépend dans son existence de l'artiste. Alors plus une fois qu'il est fait, mais pour avoir été fait, il dépendait bien d'une cause. Donc il est bien sous certains aspects dépendant dans l'être. Comme des parents par rapport à un enfant. Alors, et donc il y a aussi une origine, il y a un lien d'origine. Donc, tout est fait à son origine dans sa cause, mais toute origine n'implique pas forcément une causalité, une dépendance dans l'être, mais simplement un ordre. Si je vais de Paris à Belfort, ou de Belfort à Paris, il n'y a pas de lien de causalité, mais il y a bien une origine qui est différente à chaque fois. Qui n'implique pas forcément une inégalité, parce que Paris-Belfort, Belfort-Paris, c'est bien identique. Mais il y a bien une distinction sur l'origine. Et c'est de cette façon que distinguent les personnes, par leur origine. Mais ça n'implique aucune dépendance dans l'être. Aucune causalité. Autrement, on aurait des personnes divines qui seraient des créatures. Donc, elles ne seraient pas vraiment Dieu. Des créatures du Père. Seul le Père serait Dieu. Donc, le Saint-Esprit procède, c'est-à-dire tire son origine du Père et du Fils, comme d'un seul principe, par voie de volonté et d'amour. Ça, c'est le cœur de notre leçon aujourd'hui. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Le « et du Fils » est très important. Le « filioque », cette fameuse querelle, qui en plus c'était un prétexte après le schisme pour les orthodoxes, et dire que l'Église catholique romaine avait dévié, là où même leur père grec, par définition, admettait tout à fait cette procession du Saint-Esprit, du Père mais aussi du Fils, même si effectivement, liturgiquement, dans le symbole de Nicée-Constantinople, le « filioque » a été rajouté après. C'est vrai qu'il n'y avait pas cette précision dans l'expression liturgique de la foi de l'Église, on disait simplement que le Saint-Esprit procédait du Père. Mais comme je le faisais remarquer à mon confrère orthodoxe Henri Dernier, c'est pas marqué, procède seulement du Père. Procède du Père. Puis il y a une précision qui a été rajoutée dans la liturgie après, on a dit « et du Fils ». Et c'est devenu un prétexte pour bon nombre d'orthodoxes de dire que nous étions hérétiques, parce qu'il m'a dit que c'était une hérésie. Bon, au moins, ça veut dire qu'ils ont une conception de la foi qui est traditionnelle, parce qu'ils admettent qu'on puisse ne pas l'avoir. Mais ça, c'est une autre question. Toujours est-il que c'est très important de tenir la procession du Saint-Esprit par le Père et le Fils. Pourquoi ? Car comme je vous ai remarqué à ce cher confrère, si on ne dit que l'Esprit procède du Père, et sous-entendu que du Père, et non pas et du Fils, qu'est-ce qui va distinguer le Saint-Esprit du Fils ? Si les trois personnes divines se distinguent uniquement sur leur origine. S'il y a un autre principe de distinction, on va introduire une inégalité en Dieu. Je vous l'avais montré dans le cours sur la Trinité, je n'y reviens pas. Si donc le Fils se distingue du Père parce qu'il a son origine dans le Père, et que l'Esprit se distingue du Père parce qu'il a son origine dans le Père, mais qu'il n'a pas son origine dans le Fils, ça va être quoi la différence entre l'Esprit Saint et le Fils ? Qu'est-ce qui va les distinguer ? Puisqu'ils ont une origine commune, le Père et point barre. Donc qu'est-ce qui va les distinguer ? Moi, j'attends de voir, il n'a pas su me répondre.
Donc, il a pris un corps, un Saint-Esprit.
Mais non, parce que là, vous ferez de l'incarnation quelque chose de nécessaire. Dieu aurait pu ne pas s'incarner, d'une part. Et d'autre part, le Fils existait avant de venir au monde dans sa nature humaine à Noël. Comme je le disais encore ce matin aux enfants, Jésus n'a pas créé le monde. Enfin, faut s'entendre, mais Jésus, en sa nature humaine, n'a rien créé. Donc Jésus, en sa nature divine, il a créé. Mais en tant qu'il est Fils, pas en tant qu'il s'est fait homme. On n'a pas attendu Noël pour créer ce qui existe. Donc le Fils, il a présidé avec le Père et l'Esprit à la création, librement et de façon concertée, si je puis dire, il s'est incarné. Bon, mais il aurait pu ne pas s'incarner pour notre salut, il était libre. Il n'y aurait eu aucune injustice, je vous rappelle que le salut n'est absolument pas... Alors déjà, il était obligé de nous sauver, déjà. D'autre part, il aurait pu nous sauver par bien d'autres manières qu'en s'incarnant. Et troisièmement, pour s'incarner, il faut exister avant. Donc ça ne répond pas à la question de la distinction qu'il y a entre le Fils et l'Esprit si on dit que l'Esprit ne procède que du Père. On ne le distingue plus du Fils. Et on sous-entend qu'il y aura un principe de distinction des personnes qui soit autre que l'origine. Or, il n'y a pas d'autre principe de distinction qui soit possible qui n'implique pas d'inégalité. Voilà pourquoi on n'est pas surpris, de voir que les pères grecs, admettaient tout à fait, même si ce n'était pas dans leur liturgie, disaient tout à fait que, effectivement, même s'ils préfèrent de dire « procède du Père par le Fils », ils disaient aussi que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Boulanger, le chanoine Boulanger, dans son livre assez connu « La doctrine catholique », nous rapporte ainsi que saint Athanase, saint Grégoire de Nazian, saint Grégoire de Nice, saint Épiphane, saint Cyril d'Alexandrie, comme les pères latins, Tertullien ou saint Ambroise ou saint Augustin, disent bien que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Voilà. Et le symbole dit de saint Athanase nous dit bien que le Saint-Esprit n'est pas engendré comme le Fils, mais qu'il procède du Père et du Fils. Donc on doit tenir cela, et d'ailleurs les Grecs l'ont admis lors de ce projet d'union qu'il y avait avec, avec les orthodoxes au moment du concile de Florence. Et c'est bien après qu'ils ont fait un grief contre les latins. Et il était dit, donc ils avaient fini par admettre, les Grecs, au concile de Florence, ceci, « L'Esprit Saint procède éternellement du Père et du Fils, comme d'un seul principe et d'une seule inspiration. » Vous regarderez, c'est exactement le terme employé, hein, dans le catéchisme de Saint Pie X. « Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme d'un seul principe. » Alors on va expliquer ce que ça veut dire, un seul principe. Mais retenez déjà bien que ce qui distingue l'Esprit du Fils, c'est qu'il procède précisément pas simplement du Père, mais du Père et du Fils. Très important. Alors là, on a la raison pour laquelle on le mentionne en troisième. Car il procède par mode de la volonté, par voie de volonté et d'amour, à la façon dont l'amour procède de la volonté. Est-ce que je peux aimer quelque chose que je ne connais pas ? Non. Pour aimer, je dois connaître. Alors on me dira après, quand j'aime, je veux en connaître encore plus, oui. Mais d'abord, il faut un minimum de connaissances. Pour aimer, alors... Voilà, plus la connaissance est faible, moins on aime. Voilà. On sait qu'on a une arrière-grand-mère, ça n'y a pas besoin d'être grand savant pour le savoir, mais si on ne l'a jamais vue, ben on ne va pas beaucoup l'aimer, parce que la connaissance est très rudimentaire, on sait simplement qu'elle existait. Donc la connaissance est toujours première et préalable à l'amour. Et souvenez-vous, on avait dit que le Fils était engendré, pour bien dire justement la similitude qu'il était du Père, procédant par mode d'intelligence. Le Fils étant la pensée même du Père. Le Père est, il se pense, sa pensée est parfaite, c'est le Verbe. Ce Verbe, c'est le Fils, qui se fera cher plus tard, mais qui n'aura plus une passeur chère. Et du Père et de sa similitude parfaite qu'est le Fils, procède l'amour consubstantiel du Père et du Fils, l'Esprit Saint. Vous voyez ? Donc, de même que l'amour suppose la connaissance et que la connaissance précède l'amour, de même qu'il faut concevoir logiquement le Fils comme antérieur à l'Esprit-Saint. Je dis bien logiquement, pas chronologiquement. Les trois personnes, encore une fois, sont également Dieu et sont hors du temps et sont simultanément Dieu et sont consubstantiels. Donc ils ont un seul et même acte d'être. C'est ce que ça veut dire. Une substance, c'est ce qui a l'être. Par soi. Un accident comme la couleur de vos lunettes ou de votre livre, il n'existe pas indépendamment du support, de la page ou de la branche de lunettes. C'est un accident. La lunette en tant que telle ou le livre en tant que tel, il existe partout. C'est ça qui le rend distinct des autres, d'ailleurs. Eh bien, quand on dit que les trois personnes sont consubstantielles, on dit que, justement, elles ont un seul et même acte d'être. Elles ont une seule et même réalité, mais réellement distinctes par leurs origines. Et ce qui justifie qu'on dit du Saint-Esprit en troisième, c'est que, eh bien, le Saint-Esprit procédant selon le mode de la volonté, selon le mode de l'amour, et comme il n'y a pas d'amour avant qu'il n'y ait de connaissance, eh bien, on place l'amour en Dieu, en dernier, le Saint-Esprit. Alors, comme d'un seul principe, par voie de volonté et d'amour. Comme d'un seul principe. Alors là, c'est là que ça se corse un peu, parce que si on prend l'analogie très rapidement, je connais Georgette, admettons que j'ai une image parfaite, bon, très bien. Voilà, et puis, une fois que je connais Georgette, et que je connais toutes ses qualités, eh bien, j'éprouve un élan, je suis attiré. Il y a donc un espèce de poids qui me pousse. C'est analogiquement hein, ce dont il s'agit quand on dit que le Saint-Esprit procède par mode d'amour. Hein, il y a un élan. Sauf que, justement, dans l'amour qu'il y a entre Georgette et Jean-Pierre, eh bien, cet amour, il implique la réciprocité. D'accord ? Donc Jean-Pierre, Georgette aime Jean-Pierre et Jean-Pierre aime Georgette. Vous voyez ? Et il y a bien deux actes d'amour distincts. Il y a l'acte d'amour de Georgette, l'acte d'amour de Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut dire ça du père et du fils ? Est-ce qu'on peut dire que le père aime le fils et que le fils aime le père ? En ce sens que ce seraient deux actes d'amour distincts. Est-ce qu'on pourrait dire que... Est-ce qu'on peut comprendre le Saint-Esprit comme, d'une part, l'amour que le père a pour le fils et que le fils a pour le père ? Comme s'il y avait deux actes d'amour distincts. Assurément non, puisqu'ils se distinguent que par leur origine. Donc il faut dire qu'il y a un acte commun d'amour du père et du fils qui ne se distinguent pas autrement que par leur origine. Donc ils ont un seul élan d'amour commun. Vous voyez ? Et cet élan d'amour commun, il est parfait. Comme la pensée du père est parfaite, qui fait qu'elle est une personne. Et bien cet élan d'amour commun du père et du fils étant parfait, mais est une personne divine. Parce qu'il ne serait pas aussi parfait que, la que Dieu s'il n'était pas une, s'il n'était pas Dieu, justement, cet amour. Vous voyez ? Donc il ne faut pas concevoir le Saint-Esprit comme le terme de deux actes distincts du Père et du Fils. Vous voyez ? Il faut concevoir le Saint-Esprit comme l'acte commun d'amour du Père et du Fils, qui s'aiment en un seul acte. Nous, on est obligé de décomposer pour essayer de dire quelque chose de rationnel et d'intelligible, comme je l'ai fait juste avant. Mais il ne faut pas, dans la réalité, séparer ces deux actes qui sont un seul et même acte. Parce que je vous ai dit, hein, le Père pense le Fils, et puis le Fils et le Père ça, mais cet amour, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai si on va vite, mais c'est faux si on prend ça à la lettre. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a deux actes d'amour distincts, le Père pour le Fils pour le Père. Non, il y a un seul acte d'amour commun. Du Père et du Fils. Ce poids, cet élan, qui fera que le Saint-Esprit va apparaître sous forme notamment de vent, de souffle, qui pousse. Alors, c'est une mise en place que précise saint Thomas dans différents endroits dans la Somme, et pour bien vous montrer que c'est pas moi qui invente, eh bien, je vais vous citer saint Thomas. Alors, à deux reprises, hein. D'abord sur le terme employé. On dit bien que le Saint-Esprit, donc ça c'est dans la Somme contre dans la Somme théologique prima pars question 37 article 1 ad tertium. Donc on dit bien que le Saint-Esprit est le lien du Père et du Fils en tant qu'il est précisément amour. C'est ça qui unit le Père et le Fils. En effet, c'est par une unique dilection, un unique acte d'amour que le Père aime et soi-même et le Fils, et réciproquement. Aussi, en tant qu'amour, le Saint-Esprit implique une relation du Père au Fils, et réciproquement, une relation du Fils au Père, c'est-à-dire une relation de celui qui aime envers l'être aimé. Donc il y a bien deux relations, mais il y a un unique acte au principe de la distinction du Fils et de l'Esprit. Une unique dilection, pour reprendre le terme de saint Thomas. Et plus loin, pour bien nous montrer qu'il ne faut pas séparer l'acte d'amour de la personne qui est l'amour même, le Saint-Esprit, saint Thomas précise, toujours en somme théologique, prima pars, question 37, article 2, si l'on prend l'acte d'aimer au sens notionnel, c'est l'action du Père et du Fils, il ne signifie pas autre chose que spirer l'amour. C'est de cette façon aussi que dire c'est produire un verbe, et fleurir, c'est produire une fleur. De même donc qu'on dit que l'arbre est fleuri de fleurs, de même on dit que le Père dit soi-même et les créatures par son verbe ou son Fils. Et c'est ainsi, donc vous voyez, il n'y a pas l'acte de la pensée du Père et puis le terme de la pensée qui serait le Fils. Bon, l'acte de pensée du Père, c'est le Fils. Et de la même façon, poursuit saint Thomas, et c'est ainsi encore que l'on dit que le Père et le Fils s'aiment et nous aiment par le Saint-Esprit ou par l'amour procédant. Donc l'amour procédant qu'est le Saint-Esprit n'est pas le terme d'un acte d'amour du Père et du Fils, mais l'acte de commun d'amour du Père et du Fils étant parfait, il s'identifie à Dieu, il est donc une personne. C'est ça que veut nous dire saint Thomas. Voilà. Vous voyez bien, pour d'autres raisons que j'avais déjà indiquées, mais toute la limite et même la dangerosité de vouloir prendre comme image de la Sainte Trinité le couple humain. On va dire beaucoup plus de bêtises que de vérité. Donc il vaut mieux pas prendre une image qui est plus destructrice qu'évocatrice. La meilleure image qu'on peut prendre, si on veut vraiment faire comprendre la Sainte Trinité, c'est la conscience de soi. C'est ce que prend saint Augustin. Il prend la structure ternaire de l'esprit humain pour montrer qu'une même réalité connue et aimée en tant que connue ou connue en tant qu'aimée, bah, c'est bien la même réalité, mais envisagée sous trois rapports différents. Voilà. Donc, je suis, je me pense comme existant, et j'aime la pensée de moi-même. C'est bien à la fois le même moi qui pense, qui est pensé et qui aime. Il n'y a pas trois moi, il n'y en a qu'un seul. Celui qui pense, celui qui pensait, celui qui aime. C'est le même moi, même substance. Mais il y a bien trois rapports différents, selon que je suis simplement, selon que je suis pensé par celui qui... Ou selon que, eh bien, je m'aime m'étant pensé comme aimable, si je puis dire. Bon. Donc il y a bien une seule âme, hein, une seule substance, et puis il y a trois opérations. L'opération, bah, le fait d'être et de me souvenir comme étant, le fait de penser, et puis le fait d'aimer. Alors ça reste de toute façon des images, enfin des images. Là c'est une analogie, puisque c'est pas une image, c'est pas concret, c'est abstrait, mais ça reste une analogie. C'est-à-dire que nous, forcément, l'acte de pensée et l'acte d'amour, ça restera toujours quelque chose d'éphémère, d'accidentel, hein, qui se surajoute à ce que nous sommes. Alors qu'en Dieu, c'est précisément ce qu'il est. Il est pensée, il est la pensée, le Fils, et il est l'amour, le Saint-Esprit. Donc voilà ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme d'un seul principe, par voie de volonté et d'amour. Voyez, donc les deux personnes se distinguent par leur origine. Il y en a un qui a pour origine uniquement le Fils, l'autre qui a pour origine le Père et le Fils. D'autre part, on énumère le Saint-Esprit en troisième parce qu'il procède sur le mode de l'amour, qui présuppose la connaissance. Voilà pourquoi on le dit après le Fils. L'essentiel de ce qu'il faut retenir. Si le Fils procède du Père... Et si le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, il semble que le Père et le Fils soient antérieurs au Saint-Esprit. Ah oui, puisqu'on dit Saint-Esprit en dernier. Donc si on dit en dernier, c'est qu'il vient après. S'il vient après, il n'est pas vraiment Dieu. Comment dit-on alors que les trois personnes sont éternelles, puisqu'on met une énumération selon un certain ordre? Ben attention, comme le catéchisme va le dire, ce n'est pas un ordre chronologique. Il n'y a pas de temps en Dieu. On dit que les trois personnes sont éternelles parce que le Père engendre le Fils. Engendre le Fils, hein. On ne dit pas créer le Fils, on ne dit pas procréer, hein, on dit engendre. Hein. Voilà. Et on retient simplement dans l'engendrement la similitude. Le Fils ressemble à son Père. Bah, en Dieu, la similitude est parfaite, au point qu'il est Dieu lui-même. Le Père engendre le Fils ab aeterno, de toute éternité. Il n'a pas commencé à l'engendrer, il l'a toujours engendré. Et je vous ai fait remarquer qu'un Père ne devient pas Père avant d'avoir un Fils. Et un Fils ne devient pas Fils avant d'être... Enfin, c'est simultanément que la relation de paternité dépend de la relation de filiation. Hein, on n'est pas, voyez, on n'est pas d'abord père et puis après on a un fils. Non, comme père, on n'existe pas indépendamment de son fils. Vous voyez ? Même si quand même on peut exister sans avoir ce fils, hein, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que c'est absurde de concevoir la filiation en Dieu, le fils comme arrivant après le père, non, parce qu'il ne serait pas père s'il n'y a pas de fils. Donc c'est simultanément. Ab aeterno. Donc on dit que les trois personnes sont éternelles parce que le Père engendre le Fils de toute éternité et que le Saint-Esprit procède aussi. Il ne s'est pas mis à avoir cet amour. Il a toujours eu cet amour corrélatif à cette connaissance qu'il a de lui. Donc et que le Saint-Esprit procède aussi ab aeterno du Père et du Fils. Par votre conséquence, puisque le Fils, encore une fois, est en tout égal au Père. Donc l'acte d'amour du Père est celui du Fils. Il se distingue que par l'origine. Le Père n'a pas d'origine, le Fils a une origine. Bon, je n'y reviens pas. Ce qu'on vient de dire... est clair, il me semble, mais donc l'énumération qui suit l'ordre des processions, Fils puis Saint-Esprit, n'implique aucune inégalité et ne nie absolument pas que les trois sont absolument non seulement égales, mais éternelles. Pourquoi la troisième personne de la très sainte Trinité est-elle appelée spécialement du nom de Saint-Esprit ? La troisième personne de la très sainte Trinité est appelée spécialement du nom de Saint-Esprit parce qu'elle procède du Père et du Fils, par voie de spiration et d'amour. Alors vous avez en note hein, l'étymologie du mot spiration qui veut dire spirare, souffler. Voilà, On va dire que le Saint-Esprit est comme le souffle du Père et du Fils, sauf que c'est un souffle, encore une fois, qui est commun. Donc le mode de cette aspiration, hein, c'est le mode de la volonté, de l'amour. Et on parle d'aspiration pour désigner la relation distinguant le Fils de l'Esprit, une relation d'engendrement dans un cas, une relation de spiration dans l'autre. Alors on parlera d'aspiration active ou d'aspiration passive, selon qu'on parle de la relation du Père-Fils à Saint-Esprit ou du Saint-Esprit au Père et au Fils. Bon. Mais ce qui distingue l'Esprit Saint du reste, c'est que justement, il a cette relation, selon le mode de l'amour, impliquant qu'il procède du Père et du Fils. Un terme un peu barbare, ils n'ont pas trouvé d'autres mots, mais on comprend donc du coup bien le mot Spiritus, pourquoi il est attribué. Enfin, pourquoi, quand on parle d'Esprit, on ne parle pas des trois personnes, mais précisément de la troisième. Ça fait allusion, précisément, à cette relation qu'il distingue du Fils, cette relation de spiration, cette relation voilà, qui n'est pas celle d'engendrement. Donc ça explique encore une fois que le Saint-Esprit se manifeste, notamment donc à la Pentecôte, hein, par un grand souffle. Hein, il y a un grand bruit de tonnerre et puis il y a du souffle. Il se manifestera autrement, hein, par le feu, hein, notamment à la Pentecôte. Il se manifestera aussi par la nuée, à la transfiguration. Il se manifestera aussi par la colombe, le jour du baptême de Jésus. Il se manifestera aussi toujours par le souffle, non simplement dans le grand coup de vent qu'il y aura avant la Pentecôte, mais aussi lorsque Jésus donnera le pouvoir de remettre les péchés au soir de la résurrection. Quand il donne ce pouvoir de remettre les péchés, eh bien, il souffle sur ses apôtres, hein, comme pour attribuer cette œuvre de réconciliation du pécheur avec Dieu à l'Esprit Saint. On reverra pourquoi. Bien sûr, ces manifestations qui sortent de l'Esprit ne sont pas l'Esprit Saint. De même façon que quand Dieu se manifeste à Moïse avec un buisson ardent, Dieu n'est pas un buisson ni du feu. Hein. Donc le Saint-Esprit n'est pas plus du vent, une colombe ou du feu. Mais il se manifeste. Et Dieu ne fait pas les choses, comment dire, de façon arbitraire. Et il est sage. Et donc s'il a choisi ces manifestations du Saint-Esprit, propres au Saint-Esprit, c'est bien pour nous dire quelque chose de la caractéristique, si je puis dire, de l'Esprit Saint. Hein. Voilà, il fait connaître l'identité de l'Esprit Saint, si je puis dire, par les symboles qu'il lui a donnés pour se manifester de façon sensible et visible. C'est la raison pour laquelle on dit souvent, toujours avec cette histoire de souffle, hein, que les dons du Saint-Esprit, hein, sont comme les fameuses voiles du bateau. Hein, vous savez, quand vous avancez, vous pouvez faire ça au rame, mais c'est fatigant. Et puis, si vous avez des belles voiles qui sont correctement hissées, et qu'il y a un peu de vent, ça avance quand même beaucoup plus facilement et beaucoup moins difficilement. Bien, c'est un peu le rôle des dons du Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'avoir les dons pour se laisser mouvoir par le Saint-Esprit, mais c'est une condition. Voilà. Et donc il n'y a pas meilleur fabricant de voile que celui qui serait le vent lui-même, si je puis dire. Et donc c'est logique qu'on attribue à l'Esprit Saint, c'est à l'Esprit Saint qu'on attribue ces sept dons, hein, qui sont cette aptitude à se laisser mouvoir, à se laisser inspirer, si je puis dire, par Dieu, mais on attribuera ça particulièrement donc à l'Esprit Saint. Voilà. Pourquoi ? Parce que ces dons sont ordonnés à notre sanctification, que la sanctification, hein, c'est l'œuvre d'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est œuvre d'amour que de vouloir notre bien, notre perfection, notre achèvement, dans l'ordre de la grâce, par la sainteté, et c'est œuvre d'amour que de vouloir nous faire partager cette amitié qui est le fondement de notre sainteté, puisque ce qui fait qu'on est saint, c'est qu'on a reçu la grâce sanctifiante, hein, la grâce qui nous fait l'ami de Dieu. Bon. Donc vous comprenez bien que à partir du moment où on comprend que l'Esprit Saint est l'amour du Père et du Fils, les œuvres d'amour, et par excellence l'œuvre de la sanctification de nos âmes, on va l'attribuer à l'Esprit Saint. Puisqu'il y a une similitude entre l'effet constater la sanctification de nos âmes par les dons et le mode de procession. Alors que les œuvres de sagesse, on les attribuera plutôt au Fils. Parce qu'il est le Verbe, l'intelligence. Les œuvres de puissance, comme la création, on l'attribuera plutôt au Père. Attention, quand on attribue, ça ne veut pas dire qu'on exclut d'autres personnes. Trois personnes concourent et à la création et à la sanctification. Bon, je n'y reviens pas, on avait défini cela lorsqu'on avait parlé de la Trinité. Donc, c'est la question suivante, hein. Quelle œuvre attribuée spécialement au Saint-Esprit ? Donc l'œuvre attribuée, on parle d'attribution ou d'appropriation, hein, pour dire qu'on va mettre en corrélation tel effet avec telle personne divine. Non pas encore une fois pour exclure les autres personnes divines de ce qui se passe, mais pour manifester la similitude, la connivence qu'il y a entre le mode de procession et puis l'effet causé, si je puis dire, à l'extérieur de la Trinité. Puisqu'il n'y a pas d'effet causé à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas d'effet ni de cause. Bon. Donc l'œuvre attribuée spécialement au Saint-Esprit, c'est la sanctification des âmes. Le Saint-Esprit est le don du Père et du Fils, c'est l'amour du Père et du Fils. Notre sanctification est le fruit de l'amour de Dieu. Donc on va attribuer tout cela au Saint-Esprit, tout simplement. Vous regarderez, il n'y a pas un seul rite sacramentel qui ne fait pas allusion, de près ou de loin, au Saint-Esprit. L'ordination, c'est très clair. Hein, la position des mains, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit qui descend. Et il est clairement explicitement invoqué hein, pour l'ordination des prêtres, notamment. La confirmation, pareil, le Saint-Esprit est clairement invoqué explicitement avec les sept dons de rite traditionnel qui sont dits distinctement lors de la grande imposition des mains, hein, avant de pouvoir en parler. Le baptême, bien sûr, le Saint-Esprit est plusieurs fois invoqué et évoqué au moment du dernier exorcisme. L'Eucharistie à la messe, lorsque l'on, avant la consécration, hein, on demande au Saint-Esprit de sanctifier ses oblats. Hein. Donc on dit le baptême, l'Eucharistie. Alors nous, dans le rite traditionnel, la confession n'est pas dit, ne fait pas expressément référence au Saint-Esprit, ça c'est vrai, contrairement au rite actuel. La confirmation, comme on le disait, le sacrement de l'ordre, le mariage, il est traditionnel d'invoquer l'Esprit Saint par le Créateur, mais ça fait partie du rite en tant que tel. Bon. Et le sacrement des malades, il me semble bien hein, qu'on invoque, qui évoquait le Saint-Esprit. Il faudrait regarder exactement. Mais ne serait-ce que de toute façon. Oui, il faudrait regarder exactement. Mais ne serait-ce que par les doxologies dont je vous parlais tout à l'heure, hein, toutes les formules conclusives des prières, hein, on invoque le Saint-Esprit. Voilà. Mais le Saint-Esprit est spécialement donc invoqué lorsqu'il s'agit donc de demander la grâce de Dieu avant de donner un sacrement, mais au point que c'est incorporé dans le rituel du sacrement en question. Voilà. Là, donc c'est bien la sanctification des âmes pour la raison que j'ai dit. Le Père et le Fils nous sanctifient-ils comme le Saint-Esprit ? La réponse, c'est bien sûr oui. De la même façon que les trois personnes ont également créé tout ce qui existe, de la même façon, les trois personnes nous sanctifient également. Notre salut est bien sûr aussi l'œuvre du Père et du Fils. Et même elle l'est plus du Fils en tant que c'est lui qui s'est fait homme et pas les autres, pour le coup, pour nous racheter sur la croix. Mais donc les trois personnes concourent à notre sanctification, et c'est bien aux trois personnes qu'il faut attribuer la grâce, pour la simple et bonne raison que la grâce sanctifiante, c'est rien d'autre qu'une participation à la vie même de Dieu, à la vie divine. On ne peut pas découper Dieu en morceaux. Hein. Ça, faut bien comprendre. Quand on se fait baptiser, on reçoit la vie de Dieu en nous. Il y a Dieu qui habite dans l'âme du baptisé. Même si on l'attribue à l'Esprit Saint, et même si le Christ dans l'Évangile, clairement, hein, parle de ce temps où il n'y aura plus besoin d'aller au puits pour puiser, parce qu'il nous donnera de l'eau en abondance, et c'est la figuration de la grâce et du Saint-Esprit qui va donner. Mais il faut bien comprendre qu'en soi, c'est bien les trois personnes de la Trinité qui habitent l'âme de celui qui est en état de grâce. Et donc c'est bien les trois personnes. Mais on va, encore une fois, l'attribuer à l'Esprit Saint, car c'est l'amour du Père et du Fils, et notre sanctification, et cette communication de la vie de Dieu en nous, eh bien, une œuvre d'amour. Et voilà. Si les trois personnes ne nous sanctifiaient pas également, encore une fois, on introduirait une inégalité entre les personnes, qui impliquerait que les trois personnes ne soient pas également Dieu. Question suivante. S'il en est ainsi, pourquoi la sanctification des âmes est alors attribuée spécialement au Saint-Esprit ? C'est toujours la même chose. Alors si on dit que les trois sanctifient, pourquoi on dit que d'abord, pourquoi on mentionne que le Saint-Esprit ? Donc c'est une habitude de langage qui est fondée en théologie, mais qui ne doit pas, encore une fois, laisser supposer à une inégalité entre les personnes. Voilà ce qui est dit. La sanctification des âmes est attribuée spécialement au Saint-Esprit parce qu'elle est une œuvre d'amour. Nous rendre saints, nous rendre participants de l'amitié de Dieu, ben c'est une œuvre d'amour. Et que donc les œuvres d'amour sont attribuées au Saint-Esprit, je n'y reviens pas, je l'ai assez dit. Quand le Saint-Esprit est-il descendu sur les apôtres ? Le Saint-Esprit descendit sur les apôtres le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ et 10 jours après son ascension. Donc il en a fallu du temps. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il s'en aille, le Fils, pour que l'Esprit, le Paraclet, puisse venir. C'est ce que dira plusieurs fois Jésus pour les préparer à ce second départ, après celui de sa mort et celui de son ascension. Et il leur dit « Ne soyez pas tristes, il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet eh bien, ne viendra pas. Mais une fois retourné à mon Père, je vous enverrai le défenseur. » Donc on voit clairement que Vous voyez, chapitre notamment 14, verset 15, en Saint Jean, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, je prierai le Père, il vous donnera notre paraclet. » Et plus loin, chapitre 14, verset 25, « Je vous ai dit ces choses alors que je demeurais avec vous. Mais le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous voyez, il est toujours associé à l'envoi de la troisième personne, hein, comme je vous le disais, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc l'Esprit Saint et paraclet est associé par Dieu. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est le rôle de nous garder purs de tout péché, de nous garder purs de l'erreur. Et donc ce paraclet ou cet Esprit Saint, il est envoyé par le Père une fois que le Fils est retourné à lui. Voilà. Et il a pour mission, voyez, encore chapitre 15, verset 26, « Quand viendra le paraclet, je vous l'enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père. » Donc tantôt il dit que c'est le Père qui l'enverra en son nom, tantôt il dit que c'est lui qui l'enverra. Pour bien dire que justement, l'ordre de l'envoi des personnes à l'extérieur, le Fils se faisant homme, puis l'Esprit Saint à la Pentecôte sous forme de langue de feu, l'ordre des missions de l'envoi des personnes du Saint-Esprit, de la Trinité, pardon, l'ordre de l'envoi des personnes de la Trinité, reflète l'ordre de procession. C'est-à-dire qu'il y a un ordre logique en Dieu qui fait qu'on énonce d'abord le Père, puis la connaissance du Père parfaite, la pensée parfaite du Père qu'est le Fils, puis l'amour du Père et du Fils qu'est le Saint-Esprit, et cet ordre logique dont on a parlé depuis le début, mais il est reflété dans l'ordre pour le coup chronologique de l'envoi des personnes sur Terre. D'abord le Fils, et le Fils remonté au ciel 40 jours, 40 jours après sa résurrection, envoie avec le Père l'Esprit. Car l'Esprit procède du Père et du Fils, et donc il convient que l'Esprit ne soit envoyé que quand le Fils est visiblement retourné à son Père. Vous voyez, l'ordre de mission d'envoi des personnes correspond à l'ordre de procession. Là aussi, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Et on voit très clairement cela lorsque le Christ, voulant rassurer ses apôtres à propos de son départ proche, fait de son départ une condition pour que le paraclet vienne auprès d'eux. Et pour les rassurer, je ne vous laisserai pas orphelins. Oui.
Et pourquoi 40 jours ? C'est symbolique, c'est...
Alors là, je ne crois pas qu'il faut y voir un symbole. Cela dit, je n'ai pas assez creusé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Christ a dû manifester qu'il était vraiment ressuscité, en restant un temps assez long, en apparaissant dans différentes circonstances, à différentes personnes, pour qu'il n'y ait pas cette possibilité de la dissociation collective, de la mauvaise identification sous le coup de l'émotion. Voilà, d'une part. D'autre part, le Christ avait encore beaucoup de choses à leur dire, qu'il n'avait pas pu leur dire parce qu'il n'était pas compris. Souvenez-vous de ce discours sur le pain de vie. Je donnerai ma chair en nourriture, celui qui ne mange pas ma chair ne boit pas mon sang n'aura pas les vies éternelles, ses paroles sont dures, la moitié se barre, et puis les apôtres restent, et ils disent pourquoi vous restez, et Saint-Pierre dit pas j'ai tout compris, hein, c'est la présence réelle sous l'apparence humaine, non, il dit à qui irions-nous, toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc en fait, on comprend pas tout ce que tu nous racontes, mais on sait que tu peux pas nous tromper, donc on fait confiance.
Comme avec vous.
Voilà, voilà. Donc, merci, c'est un beau compliment. C'est un beau compliment. Mais donc on fait confiance. Donc on fait confiance, on a la foi, et effectivement, il faut comprendre après. Probablement qu'à la scène, il y a des choses qui se sont éclaircies, mais ça restait quand même mystérieux. Ils ont dû relier les deux un peu après. Et puis là, quand il va revenir, et notamment qu'il va dire la messe, hein, plusieurs fois on reconnaît la fraction du pain, donc c'est clairement un terme pour évoquer la messe. Jésus dit la messe une fois ressuscité. Mais il leur montre comment faire, et puis il leur explique en fait ce qu'il a fait avec eux le jeudi saint, et qu'il faut le faire. Et voilà. Et puis donc il va, lors de l'intelligence de choses qu'il avait dit, mais qu'ils n'étaient pas mis de comprendre avant sa mort et sa résurrection, il va compléter son enseignement parce qu'il n'avait pas tout dit, et puis il va donner ses consignes pour aller fonder l'Église, concrètement. Et à mon avis, il a dit beaucoup de choses à Pierre, forcément, le premier pape. Et il a dû aussi préciser certaines choses sur les sacrements, parce qu'il y a beaucoup de sacrements, on ne les voit pas figurer dans l'Évangile, avant en tout cas la résurrection de Jésus. La confession, ça arrive dans la résurrection de Jésus, justement. Et puis le sacrement des malades, on ne le voit que dans les actes des apôtres. Le sacrement de confirmation, on ne le voit que dans les actes des apôtres. Le sacrement de l'ordre, on a beau l'attribuer, le situer, et à raison, au jeudi saint, quand il donne les pouvoirs de dire la messe aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Il ne vous aura pas échappé qu'on n'en donne pas un prêtre en disant faites ceci en mémoire de moi. On leur donne en lui imposant les mains et en invoquant l'Esprit Saint. Donc, voilà. Comment ils ont su comment faire concrètement pour les sacrements? Le mariage, c'est la grande inconnue, parce que Il y a plein de théories sur le moment de l'institution du mariage comme sacrement. Bon, et une qui est quand même assez probable, ou en tout cas, peut-être pas de l'institution, mais de la promulgation, comme on dit. Hein. Souvent, on dit que l'institution aurait lieu soit à Cana, soit au moment où il rétablit l'indissolubilité, mais que la promulgation, c'est-à-dire la célébration du sacrement, n'aura lieu qu'après la résurrection, et le Christ aurait justement, entre la résurrection et son ascension, dit ce qu'il voulait pour le mariage. D'autres pensent qu'il a institué le mariage comme sacrement vraiment là, et pas avant. Bon. Donc voilà, il y a plein de choses qui ne figurent pas dans les évangiles, qui datent, entre guillemets, d'après sa mort, et qui sont pourtant essentielles à la constitution de l'Église. Donc ça implique qu'il y a eu cette transmission, d'une part par Jésus, entre sa résurrection et son ascension, et d'autre part par l'Esprit-Saint, qui va être donné personnellement aux apôtres, les rendant infaillibles. Chaque apôtre était infaillible. Contrairement aux successeurs des apôtres, les évêques, qui ne sont jamais infaillibles personnellement, il n'y a que le pape, à certaines conditions très restreintes. Chacun des successeurs de Pierre, chacun des successeurs des apôtres était non seulement individuellement infaillible, mais en plus de cela, il pouvait compléter ce qui n'était pas explicitement marqué ou dit par Jésus. Il pouvait compléter le dépôt révélé. C'est pour ça qu'on dit que la révélation, ce qu'il faut croire et faire pour aller au ciel, s'achève, cette révélation, à la mort du dernier apôtre. On ne dit pas à la mort de Jésus ou à l'ascension. Parce qu'ils avaient l'Esprit Saint pour compléter ce qui n'aurait pas été dit explicitement par Jésus, ou peut-être même pas du tout. Bon, probablement c'était plus une explication, mais voilà. Alors que, après, le seul qui a pu avoir l'infibilité dans des conditions assez restreintes, c'est soit le pape seul, soit les évêques unis et soumis au pape, et jamais pour déclarer de nouvelles vérités. Et toujours simplement pour préciser, expliquer, expliciter des vérités qui sont déjà révélées. Tout le rôle du magistère de l'Église, dont on reparlera plus tard. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, donc il est descendu, on l'a dit, le jour de la Pentecôte, qui coïncidait avec, avec une fête juive, hein, parce que la Pentecôte, il me semble qu'elle était, elle était déjà fêtée dans l'Ancien Testament, même si elle correspondait bien sûr pas à cet événement. Voilà, mais là je m'aperçois que j'ai plus l'historique complètement en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises. Toujours est-il que quand le Saint-Esprit vient sous forme de langue de feu, il y a clairement cette idée que l'Esprit-Saint va donner aux apôtres non seulement les dons que nous avons reçus à la confirmation, non seulement le charisme d'infibilité dont j'ai parlé, mais la charité. Alors non pas qu'il ne l'avait pas déjà, il l'avait déjà, parce que vraiment, ils l'ont retrouvé assez vite après la résurrection, quand ils ont refait un acte de foi et d'amour de leur maître. Mais l'effet de la charité, qui est de répandre ce feu que le Christ est venu allumer sur la terre, comme il le dit lui-même dans l'Évangile, cet effet-là, l'amour se communique, il est proprement attribué à l'Esprit-Saint. Le feu, ça sert à faire deux choses, hein, principalement. À éclairer, et puis à réchauffer. L'Esprit-Saint donné aux apôtres va permettre d'éclairer les âmes qui leur sont confiées par un enseignement sûr, infaillible, et par le témoignage de leur foi jusqu'à la mort, car ils finiront tous martyrs, à l'exception de saint Jean. Et l'Esprit-Saint va aussi, bien sûr, eh bien, leur faire donner leur vie par amour de Dieu et par amour des âmes qui leur sont confiées. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous voyez, l'Esprit-Saint permet de conjuguer l'amour de la vérité jusqu'à en témoigner jusqu'à la mort s'il le faut, dans le sang, et la vérité de l'amour qui est le don. C'est tombé, le Saint-Esprit est le don du Père et du Fils. Vous voyez, la charité implique de ne jamais séparer la vérité de l'amour du prochain chantre. L'Esprit-Saint, qui est envoyé sous forme de feu, rappelle cette double dimension de la charité authentique, c'est-à-dire une charité qui implique la foi, de témoigner cette bonne nouvelle jusqu'à la mort s'il le faut, car c'est la vérité, on rend témoignage de la vérité à l'exemple du Christ qui est mort pour rendre témoignage de la vérité. Mais ce témoignage de la vérité, c'est un témoignage qui est rendu par amour de Dieu et par amour des hommes qui doivent s'y convertir à l'exemple des apôtres par leur enseignement et par leur cohérence de vie, par cet amour authentique des frères. Vous voyez, l'amour de la vérité et la vérité de l'amour qui va jusqu'au don suprême. Eh bien ça, on comprend qu'on l'attribue au Saint-Esprit, qui est, encore une fois, l'amour du Père et du Fils, et qui procède de la vérité même, qui est le Fils. voyez ? Voilà, alors en fait, ça me revient, là, c'est ce qui était indiqué, mais si j'ai plus le détail, par rapport à la Pentecôte dans l'Ancien Testament, en fait, je crois que c'est, il devait fêter la Pentecôte dans l'Ancien Testament pour les Juifs, c'était la commémoration du don de la loi, hein, du don des 10 commandements par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Et à ce moment-là, il s'était produit un phénomène, des phénomènes extérieurs tout à fait semblables à ceux qu'il y a eu à la Pentecôte, à savoir un grand bruit comme celui d'un vent et qui se fit entendre, le vent d'une tempête, et puis la question probablement aussi du feu. Donc c'est ce par quoi déjà Dieu s'était manifesté lorsqu'il a donné sa loi. Et comme vous le savez, la loi nouvelle inaugurée par le Christ n'abolit pas l'ancienne loi, mais l'accomplit. Donc c'est le signe de cette continuité que le Saint-Esprit sous nos apôtres, le jour de la Pentecôte, où précisément les Juifs faisaient commémoration de la loi. La charité ne nous fait pas oublier les 10 commandements. Bien sûr, il ne me suffit pas de ne pas tuer, de ne pas piquer la femme de mon voisin, de ne pas voler, de ne pas mentir pour aimer Dieu et mon prochain. N'empêche que c'est un préalable. Parce que si je tue, que je vole, je pique la femme de mon prochain, je ne peux pas l'aimer. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Le Saint-Esprit, donné aux apôtres, et qui nous a donné à nous par le baptême de la communion, me permet d'aller au-delà. En aimant de charité, duel pour Jean, jusqu'à mourir pour lui en témoignant de la vérité, de l'amour de Dieu. Quand le Saint-Esprit, voilà, donc 50 jours après la Pentecôte, donc 10 jours après l'ascension, 10 jours après l'ascension, mais quand même 10 jours, ils ont eu encore 10 jours d'orphelinat, si je puis dire, ils se retrouvaient quand même seuls pendant 10 jours, les pauvres apôtres. Mais ils avaient pour ordre de rester dans le coin, hein, disant, voilà, et Jésus leur avait dit, hein. C'est j'envoyais l'esprit ça. Mais ils ont dû quand même. Voilà, alors, ils n'ont pas perdu. Enfin, en tout cas, là, on n'enseigne pas du tout que, contrairement entre le vendredi saint et la résurrection, là, ils n'ont pas perdu la foi ni l'espérance. Mais il y a dû avoir encore ce temps de purification et qui, à y réfléchir, correspond peut-être à cette seconde purification. Vous savez que dans la vie mystique, on distingue deux grandes étapes, hein, le passage de la voie des commençants à la voie des progressants, hein, la voie purgative à la voie illuminative, et puis après la voie illuminative à la voie unitive, la voie des progressants à la voie des. À la voie des. À des aboutissants, si je puis dire, hein, de ceux qui sont au seuil de l'union mystique. Et donc, il y a deux paliers à chaque fois, hein, la purification active des sens puis de l'esprit, puis la purification passive des sens et de l'esprit. Bon, ça, c'est un détachement de nous-mêmes, hein, pour s'unir toujours plus à Dieu dans la moindre de ces opérations. Et on peut penser, là c'est une idée personnelle qui me vient à l'esprit en vous parlant, mais je pense qu'on peut se dire que les apôtres ont vécu cette ascension spirituelle, que toute âme est censée connaître si elle reste fidèle à la grâce de son baptême. Eh bien, ils l'ont vécu dans un court laps de temps, une première purification très intense, si je puis dire, celle de la passion. Ils ont dû se dépouiller tout, et même certains ils n'ont pas résisté à cette purification, puisqu'ils ont perdu la foi, probablement, à l'exception sûrement de Saint Jean, qui l'a retrouvé assez vite, au contact de la Sainte Vierge. Et puis après, il y a eu cette deuxième purification, lorsque Jésus s'est de nouveau absenté, et même s'est absenté jusqu'à la fin du monde, de cette terre. Enfin voilà, bon, à creuser, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour eux, ça a dû être une épreuve quand même, quelque chose d'éprouvant.
On dit qu'ils avaient peur à la Pentecôte, mais,
oui.
Ils avaient quand même pendant 40 jours eu toute la révélation du Christ.
Oui, c'est pour ça que, vous voyez, on ne dit pas du tout qu'ils ont perdu la foi ou qu'ils ont remis en cause.
Oui, mais ils devaient être plein d'élan.
Plein d'élan, oui, mais voir.
Ils ont vu ressusciter,
tout à fait.
Sa toute puissance.
Tout à fait, c'est pour ça qu'ils ont l'espérance.
Ils s'enferment pendant 10 jours.
Parce qu'ils sont enfermés jour et nuit.
En tout cas,
oui, tout à fait, tout à fait. Ils sont restés en attendant le Saint-Esprit, sachant pas précisément quand est-ce qu'il allait être envoyé. Pour la raison que vous dites, voilà, ils n'ont pas perdu la foi ni l'espérance. Mais ce qui a dû être difficile, c'est, encore une fois, on est incarné, on est humain, et cette présence du Christ devait être très réconfortante, et on le voit clairement quand il apparaît aux disciples d'Emmaüs. Mm-hmm. Notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait ? Mm-hmm. Et le vide qu'il laisse lorsqu'il part. Quand on aime quelqu'un, et qu'en plus, voilà, on goûte à sa présence sainte et de façon tangible, puisque là, il était avec son corps glorieux, l'absence est rude.
Oui,
dans ce sens-là, c'est comme une épreuve. Et puis, sans qu'il y ait de jalousie mal placée de la part des apôtres, voir son maître victorieux et s'apprêter à rentrer en possession du ciel, alors qu'eux, ils ne sont pas encore arrivés au bout de leur peine. Même s'ils avaient l'assurance d'avoir les moyens pour leur mission, puisqu'ils allaient précisément sur l'Esprit Saint avant de s'en aller, suivre le Christ en l'imitant aux quatre coins du monde, ça a dû être quand même un peu source d'appréhension, objectivement. Vous imaginez sur le tarmac en train d'attendre un Esprit Saint pour aller je ne sais où, finir je ne sais comment. Et
voilà. Ils étaient déjà éclairés. Le Christ,
oui,
pendant 40 jours, leur a enseigné.
C'est d'accord.
Ils avaient quand même déjà la lumière pour y aller. Quoi.
Oui, tout à fait. Mais Dieu a voulu les faire attendre quand même, qu'il y ait cette donation visible du Saint-Esprit, sous forme de langue de feu, qui a correspondu à surcroît de grâce, quand même, et probablement à une décuplation des dons. Un peu comme nous, le baptême et la confirmation, vous voyez. Bien sûr qu'ils avaient déjà l'amitié avec Dieu, qu'ils l'avaient retrouvé depuis sa résurrection, et qu'ils sont partis à la Pentecôte pour l'avoir. Donc ils avaient déjà la foi, l'espérance, la charité, ils avaient déjà les dons du Saint-Esprit, d'une certaine façon. Puisque les dons, d'une certaine façon, ne sont pas séparables de la grâce sanctifiante. Mais la surabondance des dons que nous, on reçoit à la confirmation, bah, eux, ils l'ont reçu qu'à la Pentecôte. Alors, ils ont eu plus que ça, parce qu'ils ont eu un charisme personnel d'infaillibilité, et probablement un accroissement de la grâce sanctifiante incomparable. Mais donc, oui, vous avez raison, mais faut... Voilà, Dieu a voulu conditionner une partie de l'effet de la rédemption qu'il a opéré pour tout le monde et pour ses apôtres au don visible du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est pour ça qu'il leur demande de ne pas partir. Ils ne sont pas... Ils sont déjà envoyés en mission, puisque le Christ les envoie avant de partir, hein, aller enseigner les nations, baptiser le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et pourtant ils doivent attendre pour exécuter cette mission. Ils attendent le moyen de la mener à bien. Voilà. Même si, encore une fois, à titre personnel, ils sont déjà sanctifiés. Oui, non. Ils ont déjà l'amitié avec Dieu. C'est plus dans le rapport aux autres, dans le rapport à la mission, à leur envoi vis-à-vis des autres, qu'ils avaient besoin de cet esprit qui les fera parler notamment en différentes langues. Ils n'ont pas eu à faire des stages comme missionnaires en partir en Chine ou au Japon à apprendre telle ou telle langue. Non, ils parlent en langue spontanément. Oui. Bon. Je vais juste, parce que je vais essayer juste de finir ce chapitre. Où étaient les apôtres pendant les 10 jours qui précédèrent la Pentecôte ? Les apôtres étaient réunis dans le Cénacle en compagnie de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a dû aussi avoir un rôle d'instruction très important, notamment sur toute la question de l'enfance de Jésus, toute sa vie cachée. Donc, les apôtres réunis dans le Cénacle, là où avait été instituée la première messe, et là où vous avez été ordonné prêtre, en compagnie de la Sainte Vierge et des autres disciples, et ils persévéraient dans la prière. Donc, vous voyez, il y a la notion de persévérer, vous voyez, la notion de difficulté, il faut tenir. Attendant l'Esprit Saint que Jésus leur avait promis. Bon, voilà. Mais c'est sûr qu'il leur avait dit qu'il ressuscitait, ils ne l'ont pas cru, ils l'ont vu, là, ils n'avaient pas lieu de douter qu'il leur enverrait l'Esprit Saint. Voilà. Mais. Ils ont dû persévérer et attendre. Et donc il y avait probablement un inconnu sur le délai. Ils savaient que c'était bientôt, mais pas quand précisément. Quels effets produit le Saint-Esprit dans les apôtres ? Qu'est-ce qui va changer avec l'avenue du Saint-Esprit alors qu'ils avaient déjà été éclairés par les multiples apparitions de leur maître entre la résurrection et l'ascension ? Eh bien, le Saint-Esprit confirma les apôtres dans la foi, les remplit de lumière, de force, de charité et de l'abondance de tous ses dons. Vous voyez, lumière, force, c'est clairement ce dont ils ont besoin pour maintenant évangéliser les autres et convertir le cœur des autres. Donc je dirais que ce qui leur a apporté par le Saint-Esprit, c'est vraiment en relation avec leur vocation missionnaire, leur vocation apostolique. Et la lumière, on voit bien ce que ça veut dire, et on comprend bien pourquoi c'est sous apparence, encore une fois, de langue de feu que le Saint-Esprit a voulu se donner. C'est langue qui rappelle justement que ce que dit saint Paul, « Fides ex auditu », comment la foi vient par la parole, et s'il n'y a personne pour dire la parole... Comment auront-ils la foi ? Vous voyez ? Le Saint-Esprit donne aux apôtres de parler à la manière dont Dieu veut qu'ils parlent pour toucher les cœurs. En leur proposant d'adhérer de façon inconditionnelle à ce message qu'ils ont mission de transmettre. Donc de force, de charité et de l'abondance sous ses dons. Donc on les reverra quand on verra le sacrement de confirmation. Mais pour mémoire, donc il y a la crainte de Dieu, la piété, la science, la force... le conseil, l'intelligence et la sagesse. Bon. Ces 7 dons, on peut les mettre en relation avec les 7 béatitudes, mais là, ce n'est pas l'objet de notre propos. C'est une énumération qui se veut exhaustive traditionnellement, enfin, comment dire, qui correspond à celle qu'on donne tant dans le rituel que dans les bons catéchismes, mais on pourrait probablement en ajouter d'autres. Hein. Voilà, ça c'est hérité de... Ces 7 dons, c'est hérité, je crois, de l'épître de saint Paul, mais je ne me souviens plus quel passage précisément. Oui ?
C'est pas dans Isaïe ?
Ah non, vous avez raison, c'est pas dans saint Paul, c'est dans Isaïe, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est dans Isaïe. J'avais fait l'erreur d'ailleurs quand j'avais préparé la confirmation. Avant-dernière question, le Saint-Esprit a-t-il été envoyé pour les seuls apôtres ? Le Saint-Esprit est envoyé pour toute l'Église et pour chaque homme fidèle. Donc à travers les apôtres, c'est l'Église qui reçoit le Saint-Esprit. On va le revoir, hein, le Saint-Esprit c'est l'âme de l'Église, c'est pas rien. Mais je garde cette dernière question qui fera bien la transition avec le chapitre suivant. C'est bien l'Église, structurée par cette hiérarchie mise en place par Jésus lui-même, hein, le pape Saint-Pierre et puis les apôtres unis à lui, c'est bien par eux que toute l'Église reçoit le Saint-Esprit et donc ses caractéristiques essentielles d'unité, de sainteté, de catholicité et d'apostolicité. Alors on reverra ce que ça veut dire quand on va voir l'Église juste après. Mais l'ADN de l'Église n'est pas résorbable dans la personne des apôtres, hein, puisqu'elle persévère alors que les apôtres sont morts. Donc le don visible du Saint-Esprit aux apôtres ne s'est pas limité à les sanctifier personnellement, mais c'est aussi bien sûr le moment où, si je puis dire, le Saint-Esprit devient garant de cette société visible fondée par Jésus pour continuer son œuvre jusqu'à la fin du monde. Œuvre d'enseignement et œuvre de sanctification. Voilà, et puis cela veut dire aussi que par les sacrements, spécialement le baptême, chacun reçoit l'Esprit Saint. Et par la Pentecôte, en surabondance, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Ils avaient déjà reçu le baptême, déjà reçu l'Esprit, mais ils n'avaient pas, on ne leur avait pas encore imposé les mains. Bon. Donc ça, en ce sens, ça vaut pour tout chrétien. Et c'est par le Saint-Esprit, je m'arrêterai là, hein, mais c'est au Saint-Esprit qu'on attribue cette présence d'inhabitation. On parle d'inhabitation trinitaire pour dire cette habitation du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'âme de celui qui est baptisé. Mais c'est bien, encore une fois, à l'Esprit qu'on approprie ce don de la vie divine. Alors, est-ce que je retrouve ma citation ? Voilà. Saint Jacques qui nous dit « L'Esprit vous aime jusqu'à la jalousie » ou Saint Paul aux Galates, et donc là, il ne parle pas qu'à des prêtres, hein, ou à des évêques, il dit « Laissez-vous conduire par l'Esprit ». C'est entendu, chaque chrétien en état de grâce a cet Esprit. « Cet amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » Il dit toujours Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 5. Et souvenez-vous de ces fruits de l'Esprit qui sont donnés par saint Paul et rappelés à tout chrétien. Il en énumère 12, et c'est pour ça que j'ai confondu tout à l'heure avec les 7 dons. C'est les fruits de l'Esprit qui sont issus de saint Paul, les 12 fruits de l'Esprit, alors que les 7 dons sont issus effectivement d'Isaïe. Voilà les 12 fruits d'Esprit: charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté. Voilà. Donc ces 7 dons, ils ne sont pas réservés aux apôtres ou aux successeurs des apôtres, les évêques et les prêtres. Ils sont bien sûr donnés à tout chrétien, et spécialement à tout chrétien qui a été confirmé. Et vous noterez bien que, pour la confirmation, il y a ce même lien que pour la Pentecôte. On est confirmé, non seulement pour avoir l'achèvement du baptême, mais pour être fait et constitué soldat du Christ. Apôtre de Jésus. On a un caractère qui nous députe, qui nous constitue légitime à témoigner notre foi jusqu'au risque de notre vie. Et pour cela, on a la force de l'Esprit et les autres dons. Alors, il y a vraiment les deux aspects dans la confirmation. Il n'y a pas que cet aspect-là, il y a aussi l'aspect d'achèvement du baptême. C'est pour ça qu'en Orient, on confirme le jour du baptême. Et c'est pour ça que même dans l'Église latine, quand un enfant est en péril de mort, non seulement on le baptise, mais on le confirme. Et tout près, dans ce cas-là, on peut le confirmer. Mais si, à juste titre, dans l'Église latine, on attend l'âge traditionnellement de 7-8 ans, et non pas de 16-18 ans, mais de 7-8 ans, pour confirmer un enfant, c'est précisément parce que, ayant l'usage de la raison, il est en mesure de défendre par des paroles ce en quoi il croit. Mais il a besoin pour cela d'une force